Et bonjour tout le monde. Ça va bien? C'est une matinée spéciale avec cette fête de Pâques puis avec des baptêmes. Mais je voulais prendre le temps, en commençant la matinée, de saluer les familles qui sont venues ici, des amis aussi de ces personnes qui courageusement décident d'afficher leur foi chrétienne, leur foi en Jésus-Christ. Et on vous mentionne aussi pendant les baptêmes tout à l'heure, si vous n'êtes pas familier, tout ça va se passer ici. Et on vous demande donc de rester assis, s'il vous plaît. On sait que c'est un petit peu élevé, mais ce qui se passe à l'avant va être projeté sur les écrans. On a un photographe qui va prendre des photos, et donc on voudrait que tout le monde puisse avoir le meilleur champ de vision possible. Alors simplement, restez assis, s'il vous plaît. Ce matin, on fête Pâques, et puis je lisais la presse ce matin, puis ça m'a frappé de... Je cherchais en fait des articles sur Pâques dans la presse, et c'était assez triste. Dans les années précédentes, il y avait vraiment comme quelque chose de spécial à Pâques. Puis ce matin, je m'en venais aussi sur la route, puis j'avais encore ce sentiment-là qui se répétait en moi d'une certaine tristesse de voir un peuple québécois qui a oublié, qui a perdu beaucoup de choses. En fait, dans la presse ce matin, j'ai trouvé quelque chose sur des religieux, des religieuses qui sont de moins en moins nombreux dans le monde. Et j'avais l'impression que c'est juste ça qui restait de l'histoire de Pâques. C'est juste ça qui restait d'une culture qui pourtant a entendu et a chéri la personne de Christ. Et ce matin, on va plonger dans les Écritures parce que Christ est important. Christ est fondamental. Et Dieu est là, Dieu est bien vivant. Vous allez l'entendre à travers les témoignages. Mais Dieu est vivant dans l'univers. C'est lui le créateur de l'univers. Et il désire s'approcher de nous. C'est intéressant, des fois, lorsque je pense à Pâques, je pense au printemps, puis cette année, le printemps prend du temps à s'installer. Je me souviens, il y a quelques semaines, je me suis pointé ici sur l'estrade, puis j'ai dit, OK, 1er de mars, c'est fini. C'est sûr, c'est fini. Ah non, on avait encore de la neige hier. On avait encore de la neige, puis on a besoin de sentir cette vie-là, hein, qui va sortir de la terre, qui va commencer à nous réchauffer, tout ça. Et ce matin, pendant que j'étais encore en train de prier, puis de célébrer dans mon cœur... La fête de Pâques, bien c'est cette naissance-là beaucoup plus grande que le printemps, une naissance dont on sent le besoin, tout âme humaine, à un moment ou à un autre, ressent ce besoin, à quelque part, de voir une vie nouvelle jaillir en lui, et c'est ça qu'on célèbre à Pâques. Une naissance qui est plus grande et plus profonde qu'un printemps qui tarde à pointer, une naissance que chacun d'entre nous qui l'avons expérimenté, tous ceux qui sont chrétiens ici, qui ont expérimenté cette naissance en eux-mêmes, ont senti ce printemps-là jaillir, une réconciliation profonde avec un Dieu qui semblait distant auparavant. Et si vous le permettez, on va aller ensemble dans un mot de prière, et puis je vais vous lire une portion des Écritures. On va plonger les regards ensemble dans la parole de Dieu ce matin. Éternel Dieu, j'attends le printemps avec beaucoup d'impatience depuis plusieurs semaines, Seigneur. Et chaque journée où le soleil nous réchauffe un peu plus, Seigneur, je me sens bien. J'ai le goût simplement de me placer devant une fenêtre ou d'aller prendre une marche à l'extérieur et j'ai l'impression de sentir mon corps revivre, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, je porte un soleil plus grand encore dans mon propre cœur, ce soleil qui m'a été apporté par l'Évangile. Par ta grâce, Seigneur, dans les bons, dans les mauvais jours, il y a une paix et une joie profonde, une sécurité qui est là en moi, car dans mon histoire à moi, dans mon histoire personnelle, il y a de cela plus de 25 ans. Un printemps est né en moi qui ne s'éteindra jamais, qui ne laissera jamais de place à l'hiver, Seigneur, et qui va me porter jusque dans l'éternité. Et en fait, Seigneur, j'attends ce jour glorieux où je verrai ta face et ce soleil merveilleux que tu es, Jésus, brillera davantage encore sur ma face, Seigneur. Alors, je te prie ce matin de venir nous rencontrer. Que Pâques, Seigneur, soit plus qu'un congé férié. Que Pâques soit plus qu'une longue fin de semaine pour s'écraser devant la télé ou aller prendre de longues marches. Mais que Pâques soit une rencontre avec toi, Seigneur. Viens nous toucher ce matin. Viens nous rappeler ta résurrection, Jésus. Amen. 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 Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Colossiens, dans la lettre aux Colossiens. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, ça ne me pose pas de problème. Vous allez pouvoir suivre à l'écran. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à l'église de Colosse. Et l'apôtre Paul avait saisi par une révélation de Dieu, lui qui connaissait très bien l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas écrit encore, donc vous aviez à peu près les deux tiers de la Bible qui était écrite. Et Paul, qui était un juif très, très, très érudit dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, dans la loi de l'Ancien Testament, comprenait ces choses-là, un jour a fait la rencontre avec Jésus-Christ. Non pas pendant son ministère terrestre, non pas de son vivant, mais après sa mort, sa résurrection, ce juif-là qui ne croyait pas du tout en Jésus-Christ, qui ne reconnaissait pas en Jésus-Christ le Messie que les Juifs attendaient, un jour a vécu une expérience surnaturelle. Vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire, ça c'est votre décision à vous, mais cette expérience-là de Paul est venue bouleverser l'histoire de l'humanité. Cette expérience-là de Paul est venue bouleverser l'histoire de l'humanité parce que Paul, l'apôtre Paul, est certainement l'un des plus grands théologiens de toute l'histoire de l'Église et ses écrits, qui représentent une bonne partie du Nouveau Testament, sont parmi les écrits qui ont marqué le plus l'histoire des hommes, chrétiens ou non, l'histoire des hommes. Et donc ce matin, on va s'arrêter sur quelques versets dans la lettre aux Colossiens où Paul nous partage ce qu'il a compris d'un homme qui a marché parmi les hommes, un homme qui est né dans un petit village à Nazareth, Jésus de Nazareth, et qui était beaucoup plus qu'un homme. C'était la conviction profonde de Paul, c'était l'expérience de Paul. Il a reconnu dans cet homme-là l'incarnation même de Dieu sur la terre, Dieu qui venait se faire connaître aux hommes. Colossiens chapitre 1, verset 15. On va écouter ensemble la parole de Dieu. Le Fils, soit Jésus-Christ, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et là, Paul fait allusion à des choses mystérieuses pour nous. Il parle d'autorité, de domination, d'une réalité qui dépasse celle qui est visible, d'accord, comme il vient de le dire. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, c'est-à-dire de tous les croyants, de tous les chrétiens de tous les temps. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, la bonne nouvelle, si vous préférez, que vous avez entendue, qui a été prêchée à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et je vais aller un petit peu plus loin, au chapitre 3, je vous lis quatre versets, puis on regarde ça ensemble. Quatre versets où à présent, Paul ne parle plus de Jésus, mais s'adresse directement aux chrétiens, à ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et tout à l'heure, on va aller voir ça ensemble, mais Paul fait allusion à l'expérience que les chrétiens vivent lorsqu'ils placent leur foi en Jésus, qu'ils passent par les eaux du baptême. Et il y a le baptême physique, le fait de se faire baptiser, de se faire immerger dans l'eau, comme on va le voir tout à l'heure, est l'expression, l'illustration d'une réalité spirituelle beaucoup plus grande qu'un simple geste symbolique. Et donc, les chrétiens croient, et Paul enseignait, que celui qui se fait baptiser en Jésus-Christ vit une expérience profonde, spirituelle, avec Jésus-Christ, une vie nouvelle commence en lui, et sa vie est réorientée vers les choses de Dieu, plutôt que vers les choses temporaires de cette vie, ou par les choses qu'il poursuivait avant. Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, spirituellement, j'entends, vous ne verrez pas de résurrection physique ce matin, je vous avertis tout de suite. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, soit au retour de Christ, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu nous invite tous les êtres humains. Ce n'est pas une histoire de chrétiens. C'est un message que Dieu adresse à tous les hommes. Et d'où ma tristesse un peu lorsque je m'en venais tout à l'heure puis je me disais, bon, les gens restent couchés, c'est un congé férié. Il manque l'essence même, il manque le cœur. Puis d'où notre zèle, puis on est fatigant. Si vous avez des chrétiens dans votre famille, puis ils vous ont dragué jusqu'ici ce matin, puis ils vous ont tiré par la couette de cheveux, je sais qu'on est fatigant, mais c'est tellement, tellement, tellement un message incroyable. Ce matin, on va voir que Dieu nous invite tous à vivre une communion personnelle et réelle avec lui. Et il nous invite à vivre une vie totalement nouvelle avec lui. Et c'est de ça dont vont témoigner ces trois personnes qui vont se faire baptiser tout à l'heure. Voyez-vous, dans le passage que je vous ai lu dans Colossiens 1, Paul adresse quelque chose qui me semble plus pertinent que jamais pour le Québec, en tout cas pour les Québécois. Paul, dans Colossiens 1, 15, dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Si vous venez ici à Pâques une fois par année, ou vous venez dans le temps des fêtes à Noël, vous m'avez peut-être déjà entendu répéter ça, prononcer ça, mais il me semble que les Québécois ont besoin d'entendre ça, et c'est pour ça que j'insiste sur ça. Dieu est invisible par définition, c'est Dieu. Okay? Je veux dire, s'il était visible, s'il était tangible et que Dieu était entièrement présent, physiquement, complètement présent, je veux dire, vous comprenez que le bonhomme Pillsbury n'est pas assez gros, il remplirait la pièce ici, il n'y aurait pas d'oxygène pour personne. Et si Dieu est un esprit et donc il est omniprésent, si Dieu existe, il est tout puissant, il est omniprésent, il est omniscient, partout, connaît tout. Et là, vit à l'extérieur du temps. Et donc, Dieu est esprit. Et ça, c'est très intangible pour nous, n'est-ce pas? J'ai la misère à connecter avec l'esprit de ma femme lorsqu'elle est devant moi, puis elle me parle avec celui des gens avec qui je parle. J'ai la misère à être en contact avec moi-même, puis à me comprendre moi-même. Alors, Dieu. Mais non seulement ça, dans notre culture aujourd'hui, Dieu est encore plus invisible. Je cherchais ce matin, littéralement, dans la presse, en tournant les écrans sur mon iPad, je cherchais la trace de Dieu. Tu sais, c'est Pâques, Dieu, non? J'ai trouvé quelques 18 000 religieux, religieuses dans le monde qui ont consacré leur vie à Dieu. C'est la trace de Dieu que j'ai trouvé dans la presse. Je ne sais pas, peut-être que je ne me suis pas rendu à la bonne place, mais je n'ai pas trouvé d'autre chose ce matin. Et donc, non seulement Dieu est invisible, mais Dieu est de moins en moins visible dans notre culture, à tout le moins, le Dieu que Paul a connu, le Dieu dont Paul a parlé. En même temps, c'est vrai, Dieu est partout, tout le monde a son Dieu. Peut-être que je suis en train de t'insulter ce matin lorsque je dis ça, puis tu dis, regarde, c'est pas parce que je suis pas chrétien comme toi, bonhomme, que je crois pas en Dieu. Dieu, je le connais, Dieu s'est révélé à moi, Dieu, je l'ai défini, j'ai mon Dieu, il est ici à l'intérieur de moi. C'est pas de ce Dieu-là dont je vous parle ce matin. Je vous parle pas de celui que je peux définir, je vous parle de celui qui m'a défini. Je ne vous parle pas du Dieu que je pourrais m'inventer si je prenais une page blanche puis je voulais donner un sens à l'univers. Je parle de celui qui est extérieur à moi, qui se fait connaître à moi. Je parle d'un Dieu qui a traversé les temps parce qu'il est hors du temps. un Dieu qui, par définition, c'est vrai, semblerait inaccessible. Mais voici ce juif qui était un persécuteur des chrétiens, Paul, ce juif qui était ferré dans le livre, qui était reconnu comme la sagesse même. À l'époque de Paul, un grand nombre de Grecs s'intéressaient à l'Ancien Testament parce qu'ils trouvaient là un Dieu intelligent. Je ne voudrais pas insulter les Grecs. Si dans vos ancêtres, il y a des Grecs, puis pour vous, Zeus et toute la gang, c'était le summum de l'éthique et de la sagesse. Je ne voudrais pas vous insulter ce matin, mais les Grecs avaient trouvé dans le Dieu de l'Ancien Testament un être bon, un être généreux, un être juste, un être qui n'est pas mesquin. Un Dieu qui fait énormément de sens pour comprendre la terre. Et donc, beaucoup de Grecs s'intéressaient. Et ce Paul-là, qui connaissait... J'ai le goût de dire parfaitement l'Ancien Testament. En même temps, lorsqu'il a entendu parler de ce Jésus-là, il n'a pas cru en lui. Et donc, il est devenu un persécuteur des chrétiens. C'est ça qu'il est devenu, Paul. Paul allait de ville en ville, d'accord, avec un permis. Il y a un livre qui a été publié dernièrement, le Livre noir, la persécution des chrétiens dans le monde. On en entend énormément parler, il y en a beaucoup plus qu'avant. Ça passe dans les journaux, ça, vous le voyez dans la presse, oui. Et donc, Paul était un persécuteur de chrétiens. Il y avait un permis littéralement écrit par les autorités religieuses qui lui permettaient d'aller en ville, de dénicher les chrétiens qui priaient parfois cachés parce qu'ils étaient persécutés, les ramener puis s'assurer qu'ils soient mis à mort. C'était sa job. Il le faisait avec un énorme zèle. Et ce Paul-là, un jour, alors même qu'il était en train d'accomplir sa sainte mission, sa sainte croisade, et il le faisait avec un dévouement, croyait-il, très honnête envers Dieu. C'est ce qu'il va dire après. Il va dire, mon zèle pour Dieu était absolu. Je tuais avec zèle. Et ce Paul-là, un jour, a une apparition, une manifestation de Jésus-Christ. Et il découvre, en écoutant Jésus, en allant vers les Écritures par une révélation de Dieu et découvre qui est ce Christ-là. Et c'est de ce Jésus-là dont il parle ici lorsqu'il dit au verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Un petit peu plus loin, il dit au verset 16, « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. » À la fin de ce verset-là, il écrit, « Tout a été créé par lui et pour lui. » Et je m'en vais encore un peu plus loin au verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. C'est flyé, c'est difficile à recevoir, c'est difficile à comprendre, mais Paul avait la profonde conviction, après avoir fait la rencontre de Jésus-Christ, que dans cet homme-là, il y avait plus que de la sagesse, il y avait une révélation entière et pleine de Dieu. En fait, c'était Dieu qui s'est incarné. Regardez bien ce qu'il dit à la fin du verset 16, je viens juste de le lire. « Tout a été créé par lui et pour lui. » Des fois, ce qui irrite lorsqu'on entend parler de Jésus puis tout ça, puis là, on cherche, on chemine, on se pose des questions, on va vers toutes sortes de religions, puis on étudie, puis... Ce qui irrite des fois, c'est qu'on a l'impression que les chrétiens sont obsédés avec un seul, puis les chrétiens veulent le mettre dans une classe comme à part, tu sais, c'est Jésus. Mais pourquoi Jésus plus qu'un autre? Je comprends qu'il est sage. Je veux dire, honnêtement, si vous pensez que Jésus n'est pas sage, vous n'avez jamais lu les évangiles, OK? Ça, c'est le strict minimum. Il peut vous aider à avoir une meilleure vie, même si vous ne croyez pas vraiment en lui. Allez juste prendre ses principes, votre vie va avoir un petit peu plus d'allure, je vous le garantis. Et en fait, beaucoup de ces principes sont intégrés dans notre société, dans notre culture, bien souvent, bien souvent. Mais parfois, ce qui irrite lorsqu'on rencontre des chrétiens et nous partagent leur foi, c'est qu'ils semblent élever Jésus au-dessus de toutes les autres religions. Jésus au-dessus de tous les grands saints, Jésus au-dessus de tous les prophètes. C'est vrai, c'est ça qu'on fait. C'est absolument ça que nous faisons. Parce que nous croyons profondément que Jésus n'est pas seulement un autre sage qui est venu. C'est agaçant, tu viens des fois, puis si vous venez à l'église depuis quelques mois, vous êtes en cheminement, vous posez des questions, puis à un moment donné, c'est Jésus, 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 Jésus. Ça arrive même des fois qu'il y a des chrétiens qui sont dans une réunion, puis ils disent, OK, on peut-tu parler de quelqu'un d'autre? Même des chrétiens, ouais, mais ils parlent juste de Jésus. Attends, t'as pas compris? Tu veux que je te parle de Dieu? C'est ça que je fais, je te parle de Jésus. Parce que Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Dieu était entièrement présent. C'est super important à saisir parce que si dans mon cheminement, si dans ma démarche, je suis en train d'écouter des paroles de Jésus, écouter des choses que Jésus a apportées, puis je me dis, je vais aller voir ailleurs, puis je vais mettre ça ensemble, puis je vais construire quelque chose. Il me manque encore l'essentiel. Connaître Dieu, c'est rencontrer une personne. C'est pas simplement recevoir les enseignements de Jésus, c'est rencontrer une personne. La personne de Jésus-Christ. C'est aller à sa rencontre. Et donc, Jésus n'est pas simplement un émissaire, une illustration de quelque chose d'intangible. En lui, dans sa personne, la personne de Dieu même s'est manifestée, s'est révélée. C'est mystérieux. Je ne peux pas expliquer ces choses-là. Vous comprenez? Ça, j'aurais pu luncher avec Jésus. Tantôt, j'ai dit, Bonhomme Pillsbury, il ne rentre pas ici, mais j'aurais lunché avec Jésus. J'aurais mangé avec Dieu. Je ne peux pas expliquer ces choses-là. Bien honnêtement, il y a bien des affaires que je n'arrive pas à expliquer. Je ne peux pas expliquer Dieu vraiment non plus. Mais lorsqu'on connaît Jésus-Christ, lorsqu'on découvre qui il est, ce qu'il a fait, ses enseignements, sa personne, et qu'à un certain moment donné, cet être-là qui est un grand sage, qui m'apporte des principes de sagesse, c'est comme si, à un moment donné, je suis en train de lire ça, tu sais, puis c'est un document, c'est une encyclopédie de sagesse, bon, ben, je vais aller voir les sagesses asiatiques, les sagesses orientales, les sagesses contemporaines, puis là, à un moment donné, je commence à lire ce livre-là, puis c'est comme si les mots commençaient à décoller de ce livre-là, des feuilles, puis ça entre en moi, puis il y a quelque chose qui se passe à un moment donné. Je sais que c'est capoté, mon affaire, mais ça fait des millions de chrétiens qui le vivent à travers les âges, d'accord? Ici, dans la salle, il y a des centaines de personnes qui l'ont vécu. À un certain moment donné, je passe des principes à une personne. À un certain moment donné, je ne suis plus en train de considérer une sagesse et je réalise que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est en fait Dieu qui me parle. Et donc, pour les chrétiens, ce livre-là, c'est plus que juste du papier puis de langue, vous comprenez? Puis quand je parle du livre, je parle pas de celui-là, là, c'est pas... Moi, je veux dire, j'en ai plein de ce livre-là, j'ai plein de Bibles, je lis ma Bible là-dessus, c'est partout, là, je veux dire. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est plus que juste des principes, c'est plus que juste une histoire. C'est une personne qui me parle, et à un certain moment donné, lorsque tu es en train de chercher Dieu puis tu lis les Écritures, tu passes de cette notion-là de principe, d'idée qui, ouais, je pourrais essayer ça, ouais, je pourrais faire ça. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Tu réalises que Dieu est en train de te parler. Puis la question, c'est pas, est-ce que je pourrais adopter ce principe-là? À un certain moment donné, c'est plus ça la question du tout. C'est, est-ce que je veux suivre cette personne-là? La personne de Jésus-Christ. Je ne suis plus en train de suivre des principes. Je découvre que Dieu, d'une manière surnaturelle, par son esprit, me parle à travers sa parole. Et moi, lorsque je lis ces lettres-là, oui, des fois, je suis comme, je ne suis pas là, tu sais, puis je suis distrait, puis je commence à lire, puis à la troisième ligne, je commence à m'endormir. Mais quand vraiment je suis là, puis je veux connecter avec Dieu, à un certain moment donné, ces principes-là deviennent une personne qui me parle par son esprit. Et la personne qui passe d'un sympathisant du christianisme, qui passe d'une espèce de philosophe chrétien qui va dans la vie en adoptant des principes puis qui devient chrétien, c'est cette personne qui, à un certain moment donné, cesse de recevoir de la sagesse de Dieu et décide de suivre Dieu et entre dans cette relation-là avec Dieu. Voyez-vous, Jésus-Christ est beaucoup plus qu'une illustration de Dieu. Il est beaucoup plus qu'un émissaire de Dieu. Il est Dieu lui-même. Et devenir chrétien, c'est découvrir qui il est et entrer en communion avec lui. Deuxième guerre mondiale. Connaissez-vous votre histoire un petit peu? Deuxième guerre mondiale. Oui, ça va? C'est qui les méchants? C'est le régime nazi, ça va? C'est pas les Allemands, c'est le régime nazi. Régime nazi, ça va mal. Ça va vraiment mal. Ça a pris du temps avant que les Alliés allument. Hein? Méchante gang d'endormis. Tant qu'ils ne se sont pas sentis menacés, ça restait. Écoute, même, ils pouvaient même gagner économiquement là-dedans. Je veux dire, on peut même fournir des armes. On fait du fric avec cette affaire-là. C'est de l'autre bord, c'est de l'autre continent. Ils sont loin, tout ça. Mais à un moment donné, oh, les bombes commencent à sauter dans nos ports, près de nous. Les sous-marins allemands commencent à s'approcher. On commence à être inconfortable. Imaginez un instant qu'on réécrit l'histoire. On réécrit l'histoire, puis au lieu de se préparer pendant quelques années à un méga débarquement, au lieu de passer à l'offensive, au lieu de faire une intervention, imaginez au lieu de ça, je ne sais pas, qu'ils prennent les moyens technologiques de l'époque et ils envoient des messages, ils envoient des émissaires à tous ceux qui sont pris dans cet empire que Hitler est en train de se construire, et il leur envoie des émissaires pour porter un message à ceux qui souffrent là. Et le message, c'est ceci. On est avec vous. On est là. We feel you. On est là avec vous. On pense à vous. On prie pour vous. On est là. Faites-vous-en pas. Mais sans aucun plan d'intervention. Tout à l'heure, j'ai dit connaître Jésus-Christ, c'est entrer en relation avec lui. Jésus était beaucoup plus qu'un émissaire de Dieu. Jésus n'est pas simplement venu sur la terre pour dire, « OK, les amis, je sais, Dieu est invisible, tu sais, Dieu n'est pas très tangible, puis je vais rendre ça plus concret, tu sais, touchez-moi, on va écrire ça, vous allez pouvoir raconter les histoires lorsque j'ai pleuré, puis ça va devenir plus vrai encore, comment j'ai été gentil là. » Tu sais, on va pas dire Dieu est bon, on va dire Jésus a été bon lorsqu'il a, par exemple, aimé cette femme qui était rejetée, lorsqu'il a touché à cet homme qui était lépreux. Là, c'est tangible. Et là, on pourrait s'arrêter là, puis Jésus aurait pu venir simplement pour dire, je vais vous faire connaître Dieu, je vais rendre Dieu tangible. On va passer des concepts, des principes, puis vous allez avoir une personne, vous allez pouvoir raconter ses histoires. Il jouait au soccer avec l'équipe du quartier, puis il était vraiment toujours patient, toujours gentil, Jésus. Il prenait jamais des pénalités. Jésus n'est pas simplement venu nous apporter des informations sur Dieu. Jésus est venu parce que Dieu, à travers lui, voulait réconcilier le monde avec lui-même. Jésus est venu parce que Dieu voulait réconcilier le monde avec lui-même. Voyez-vous, si les Alliés s'en étaient tenus à dire, écoutez, on est là, on comprend, on vous supporte, lâchez pas, sans passer avec une intervention pour ramener la paix, c'était la catastrophe mondiale. Déjà, c'en était toute une. Ce que les Écritures nous disent, c'est que Jésus a dû venir pour faire une intervention. Et donc, si pour vous, Jésus, c'est juste un grand sage, hein, vous n'avez pas compris qui il est. Là, tu fais un pas de plus, puis tu comprends, attends un petit peu, non, c'est plus que ça, c'est Dieu qui est venu parmi les hommes pour nous faire connaître Dieu. OK, on s'en va sur le bon chemin. Fait que je l'écoute comme celui qui a la sagesse, celui qui me parle de Dieu vraiment. C'est pas assez encore. Dieu envoyait son Fils, Jésus-Christ, pour réconcilier le monde avec lui-même. Et je m'en vais ici vers ce qu'il y a de plus important ce matin. Dans Colossiens 1, versets 19 et 20, « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Je ne sais pas jusqu'à quel point tu es d'accord avec cette idée-là que tu as besoin que Dieu se réconcilie avec toi. tout à l'heure lorsque je disais que le christianisme est de moins en moins présent dans la culture, ça s'illustre aussi comme ça. On conçoit Dieu de plus en plus comme un être fondamental. Tu sais, s'il est là, c'est une espèce d'être assez flou, c'est comme une espèce de pulsion électrique d'où viennent la vie. Tu sais, la vie jaillit de lui, puis ça s'arrête à peu près là, je pense. Il y a une sagesse dans ça. Peut-être qu'un jour, on va retourner se connecter avec cette espèce de vie-là. Mais si je te dis que Dieu est en conflit avec toi, qu'est-ce que ça te fait? Et non seulement Dieu est l'auteur de la vie, c'est vrai, la Bible dit ça, mais si je te dis que Dieu est vraiment chicane avec toi, qu'est-ce que ça te fait? Si je te dis que tu ne peux pas t'approcher de Dieu si Dieu ne choisit pas de se réconcilier avec toi. Regardez bien ce qu'il dit ensuite au verset 21. Et je pense que plusieurs d'entre vous ne pourrez juste pas vous identifier avec ces versets-là. Colossiens 1, 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Aujourd'hui, lorsqu'on pense à Dieu puis on pense que Dieu est étranger, on ne se voit pas, nous, comme loin de Dieu. On a plutôt l'impression que Dieu est loin de nous, non? C'est pas ça qu'on le feeling général dans notre culture. Dieu est distant, c'est celui qui ne se fait pas connaître. Et Paul arrive ici avec ce jugement-là sur sa culture et il dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers, non seulement étrangers, mais ennemis de Dieu. » Je pense que généralement, dans notre culture, on pourrait dire, bon, OK, il y a peut-être des athées zélés, là, tu sais, qui haïssent Dieu, puis qui haïssent la religion, puis qui s'en prennent à ça, puis tous les maux de la terre viennent des religions, puis viennent de cette idée-là de Dieu, puis, OK, eux autres, on pourrait dire, bon, peut-être c'est des ennemis de Dieu, mais est-ce que chaque être humain est prêt à se voir lui-même comme un ennemi de Dieu? La difficulté qu'on a, c'est que l'univers a été créé pour Yannick. L'univers a été créé pour moi. Je suis le centre de l'univers. Mais en fait, ici, il y a beaucoup, beaucoup de centres de l'univers. Puis dans notre quotidien, ça ressemble beaucoup à ça. Même comme chrétien, hein, soyons honnêtes, même comme chrétien, je me lève le matin, je pars ma journée, c'est comme, hey, je suis un bon chrétien, j'ai fait mon petit culte, j'ai lu ma Bible, tout est en règle. Ouh, Dieu va bénir ma journée. Puis là, il m'arrive une tuile. Qu'est-ce que c'est Dieu un matin? C'est quoi l'affaire ce matin? Non, on ne dit pas ça, on est des bons chrétiens, là, tu sais. Mais je veux dire, en dedans, la colère, c'est quoi qu'elle dit? C'est ça qu'elle dit. Je suis le centre de l'univers. Je suis le centre de mon univers. Puis lorsque je commence à cheminer vers Dieu, je réalise que Dieu dit sérieux, come on, man. Tu es le centre de l'univers. L'univers a une existence d'à peu près 90 ans. C'est ça? Après ça, il n'y a plus d'univers. Qui gravite autour de toi? Je suis une infime particule, un étranger dans un univers où on a bien voulu m'inviter. Et ma vie passe comme une vapeur. Ma vie passe comme une vapeur. Hey, je vais fêter 45 ans cette année. Hier, ma fille, elle m'a regardé. Elle dit, « Papa, tu as comme 10 ans de plus que tous les gars que tu es en train de former pour le ministère. » Ah, c'est arrêté là, gentil, là, mais vous comprenez? On était ensemble au resto, puis j'ai dit oui, puis je pense que j'étais un des plus vieux dans tout le restaurant. 45 ans, pas si vieux que ça quand même. Je suis une infime particule dans un monde qui m'est étranger, où j'ai été invité à vivre. Et ce que Paul me dit ici, en réalité, c'est que c'est moi l'étranger s'il y a quelqu'un qui est étranger ici. Et je vis dans un univers qui n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Et ce que Paul me dit ici, c'est que j'étais ennemi par mes pensées et par mes mauvaises œuvres. Je sais, les méchants, c'est pas nous. Mais voyez-vous, si c'est Dieu qui est le créateur de l'univers, si c'est Dieu qui a ordonné toutes choses, la simple idée qui est dans mon cœur de dire, garde, je t'appellerai quand j'aurai de besoin, je me mettrai en ligne avec tes principes quand je le voudrai, je me comporte en ennemi de Dieu. Par définition, l'être humain, on a tendance à voir le mal chez les autres et pas chez nous. Vous êtes d'accord? Si vous êtes en couple, vous le savez. Sinon, vous n'avez juste jamais été en couple, vous n'avez jamais été marié. Je veux dire, c'est ma femme qui a tous les problèmes, c'est évident. Cette semaine, j'étais en train d'écouter « Tout le monde en parle » de la semaine dernière, puis il y avait cette maman-là, amérindienne, qui a perdu sa fille. Je ne sais pas si vous avez attrapé ça, puis ils sont en train d'adresser cette espèce de... Ils appellent ça un féminicide. J'ai trouvé que c'était bien désigné. Cette espèce de drame incroyable de ces femmes amérindiennes qui disparaissent, puis on n'a pas beaucoup en série de ce problème-là. Puis à un certain moment donné, Guilla pose la question, il dit, on a entendu certaines personnes dire que c'est un problème d'hommes amérindiens, c'est eux le problème, même des ministres qui ont dit ça. Et j'ai beaucoup aimé ce que la dame qui a écrit un livre là-dessus a répondu, elle a dit, c'est un mal social. C'est un mal social, il y a des individus qui font du mal. Et c'est très sécurisant pour nous de dire, c'est eux, ces monstres-là, qui font ça, qui prennent des vies, qui abusent de jeunes filles, c'est eux qui font ça. Et cette dame-là, en un instant, a ramené ça en disant, oui, mais notre indifférence, elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est un mal social. Et voyez-vous, c'est facile pour nous de dire l'ennemi, le méchant, celui qui est pécheur, celui qui fait le mal, c'est l'autre qui est là-bas. Ce que les Écritures me disent, c'est que ça, c'est en chacun d'entre nous. Et la bonne manière de concevoir ce qui est bien, ce qui est mal, c'est de s'enligner avec Dieu ou non. Si c'est Dieu qui a créé l'univers, et si Dieu a envoyé son Fils, et si Dieu a créé la beauté de cet univers-là, c'est lui la mesure du bien. Et donc, tu veux chercher dans ta vie de quoi il parle quand il dit tes mauvaises pensées, tes mauvaises œuvres. Je pourrais t'en donner plein d'illustrations. Si tu as des doutes, fais une enquête autour de toi cette semaine. Demande à tes proches. J'ai-tu déjà fait quelque chose de mal dans ma vie? Écoute, s'ils disent non, vraiment, t'es super. Viens me voir, on va te canoniser, ce sera pas long. Ce sera pas le cas. Mais ça ne touche pas au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est ce qu'il y a dans ton cœur et ce qu'il y a dans le mien. C'est ce qui fait que lorsque je regarde des monstruosités comme ça, comme ce qui était rapporté sur ce qui est fait à ces jeunes filles, je dis ça, c'est eux, mais moi, en moi, je n'ai pas le germe de tout ça. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Moi, je fais jamais des choses qui ressemblent à ça. Moi, je ne regarde jamais les femmes comme des objets. Moi, je méprise jamais les gens autour de moi. Moi, je suis toujours vrai. Je dis toujours la vérité. Moi, je ne suis pas égoïste. Moi, je suis charitable. Moi, je me donne. Comprenez que ça fait plus de sens. Ça fait plus de sens. Et donc, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que nous puissions nous réconcilier avec lui. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que je n'ai pas à devenir parfait pour me réconcilier avec Dieu. À la fin du verset 20, il dit, « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Lorsque Jésus est venu, il est mort sur cette croix. Et je vais terminer avec ça ce matin. Lorsque Jésus est venu et qu'il est mort sur cette croix, d'une manière incroyable, et ce n'est pas si mystérieux que ça, si vous voulez lire les Écritures avec un chrétien, va prendre le temps de voir ça, allez juste lire les Évangiles par vous-même. Lorsque Jésus est venu et qu'il est mort sur cette croix, bien replacez ça dans le contexte de ce que je vous ai dit. Si Jésus de Nazareth est Dieu fait homme, bien c'est Dieu qu'on a cloué au bois. Est-ce que vous me suivez? Ta mort, ma mort, c'est un sacrifice, c'est quelque chose. Mais la sienne, c'est autre chose. Et donc, ce que les Écritures me disent, c'est que Jésus est venu volontairement. C'est offert volontairement, lui qui était Dieu incarné, Dieu invisible, rendu visible. Il s'est offert pour être pendu au bois, lui qui était Dieu, donc la mesure du bien, pas le mal. Il meurt sur cette croix, pas pour payer pour ses fautes, et pour les tiennes et les miennes, si je veux bien croire en lui. Et la beauté du message du christianisme, c'est que Dieu veut se réconcilier avec toi et moi par un simple acte de foi. Pas en suivant le christianisme comme des principes. Certains d'entre vous, vous avez été élevés dans l'Église, puis pour vous, le christianisme, ce sont des principes que j'essaie d'intégrer, puis j'essaie d'être un bon chrétien. Un bon chrétien, je le dis souvent, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un bon chrétien. Tu ne peux pas être un bon chrétien. Si tu penses que tu es bon, tu ne peux pas être chrétien. Tu peux juste devenir chrétien quand tu comprends que tu n'es vraiment pas bon. Puis on ne reste pas là. Parce qu'on place notre foi en Jésus-Christ et une vie nouvelle commence en nous. Plus loin, Paul va dire, si vous avez cru en Jésus-Christ, il y a quelque chose en vous, votre ancienne vie est morte et une nouvelle vie a commencé en vous. Vous êtes passé de la mort à la vie, il y a une réalité spirituelle qui s'est produite en vous. Et Paul va dire enfin, si vous êtes ressuscité avec Christ, maintenant cherchez les choses d'en haut. Il ne parle pas de ne pas vivre sur la terre, il parle de vivre selon Dieu. J'ai une réorientation profonde de ma vie et c'est à ça qu'on va assister avec les baptêmes et à travers les témoignages. Je veux vous souhaiter une joyeuse Pâque ce matin et j'aimerais vraiment ma prière. C'est que Pâque, ce ne soit pas une vieille fête religieuse, ce ne soit pas quelques bons principes à intégrer dans votre vie, mais que ces principes-là deviennent une personne animée par l'Esprit et deviennent vie en vous. Tout ce que ça vous demande, c'est de réaliser que cet univers-là, ce n'est pas le vôtre, c'est le sien. Et chaque fois que je vis de manière indépendante envers lui, sans chercher à régler ma vie selon lui, j'exprime tout simplement ma rébellion envers Dieu. Et je réalise à un certain moment donné que je n'arriverai pas à aligner ma vie par moi-même, à force d'efforts. Je vais simplement devoir placer ma foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort sur cette croix et qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. C'est ça qu'on fête à Pâques. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je sais que tout ça semble étrange. Ça semble être de la religiosité, une croyance vieille et dépassée dans des principes qui avaient été donnés, que les hommes s'étaient donnés pour ordonner le monde, pour essayer de considérer l'univers puis que ça fasse du sens et qu'on n'a plus besoin de ça. Seigneur, l'histoire des hommes démontre très bien qu'on a besoin de toi. Parce que le cœur humain ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Le cœur humain, c'est le même. Étranger de Dieu, ennemi de Dieu. Et ce matin, si on est rassemblés, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour te célébrer. Des chrétiens partout sur la terre, par millions, fête la Pâque en souvenir de ce sacrifice que tu as fait en t'offrant sur cette croix et en souvenir de ce moment glorieux où tu es ressuscité d'entre les morts. Mystère, Seigneur, mystère incroyable que cette puissance de ta résurrection. Et des chrétiens par millions sur la terre célèbre personnellement ce moment où tu es passé d'un principe à une personne, tu es passé d'un idéal à suivre à un sauveur personnel. Ils se sont vus eux-mêmes étrangers et ennemis de Dieu et ont cru qu'en toi seul, la réconciliation avec Dieu était possible. Merci pour cette Pâque, Seigneur, cette année. Merci pour ces baptêmes auxquels on va assister. Reçois nos chants, Seigneur. Reçois nos chants d'adoration. Amen.